Aujourd'hui, Héloïse, on part très loin et surtout très haut pour la Une de la Science sur les hauts plateaux tibétains.
Et oui, puisque c'est de là que vient la mandibule de Denis Ovien qui fait la une aujourd'hui d'une grotte tibétaine à 3280 mètres d'altitude. La découverte de cette mandibule est un événement majeur puisque grâce à elle, les scientifiques pensent tenir le premier Denis Ovien hors de la grotte de Denisova. L'étude est publiée dans la revue Nature. Pour parler de cette découverte, nous sommes au téléphone avec un des auteurs de l'étude, Jean-Jacques Hublin. Bonjour.
Bonjour Héloïse.
Vous êtes paléoanthropologue, directeur à l'Institut Max Planck de Leipzig et professeur au Collège de France. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement comme qui étaient les Denisoviens ?
Alors, les Denisoviens, c'est un groupe qu'on appelle un groupe frère des Néandertaliens, c'est-à-dire une branche de l'évolution des hominines eurasiatiques qui a évolué à la même époque que les Néandertaliens, mais en Asie. Et c'est un groupe qui a été découvert dans le sud de la Sibérie, dans l'Altaï, et qui a été au départ mis en évidence simplement sur de l'ADN, et non pas sur des restes fossiles très très complets. Hein. Donc on sait beaucoup de choses sur son génome, et jusqu'à aujourd'hui, on ne savait rien sur son apparence.
Justement, aujourd'hui, vous tenez une mandibule. Racontez-nous un peu comment elle est arrivée jusqu'à vous, parce que je crois que c'est un peu romanesque.
Alors, cette mandibule, en fait, a été découverte il y a très longtemps, à l'époque où j'étais encore un jeune chercheur qui espérait avoir un poste au CNRS. Et elle a été découverte par un moine tibétain dans une grotte, qui est un sanctuaire religieux. Et où les gens viennent récolter des os sacrés dont ils font de la poudre pour en faire un médicament, en fait. Hein. Et alors, ce moine tibétain l'a offerte au sixième Bouddha vivant, qui l'a gardé pour moi pendant toutes ces années, et qui quand même, sur la fin, a décidé de la donner à une université chinoise. Donc c'est comme ça que l'étude a pu commencer.
Et alors, donc vous nous le rappeliez, avant on avait de l'ADN. Est-ce qu'on avait d'autres éléments concrets sur Denisovien avant cette mandibule ?
Alors, deux choses. D'une part, on sait qu'il y a des traces d'ADN denisovien dans des populations asiatiques actuelles et plus encore en Australie, en Mélanésie. Et donc ça suppose que ces denisoviens ont eu une extension géographique beaucoup plus vaste et que c'est avec le mélange de populations qui a pu se produire quand les hommes modernes sont arrivés dans le sud de l'Asie, eh bien que cet ADN denisovien a été fixé dans le génome des ancêtres des Australiens. Et puis d'autre part, on a en Asie, surtout en Chine, toute une série de fossiles qui étaient des candidats potentiels pour être denisoviens, mais sans ADN. Donc on avait d'un côté de l'ADN et pas de morphologie à Denisova, et puis en Chine, des fossiles avec beaucoup de morphologie, mais pas d'ADN.
Et alors, ce fossile retrouvé au Tibet, qu'est-ce que vous avez pu en faire et quel résultat vous avez pu en tirer ?
Alors, malheureusement, ce fossile ne contient pas d'ADN non plus, mais nous avons utilisé une méthode qui est une méthode nouvelle, qui est une méthode différente, qui consiste non pas à rechercher uniquement de l'ADN, mais à s'intéresser aussi à des protéines qui, elles, se conservent beaucoup plus longtemps que l'ADN. Et ces protéines sont formées par des chaînes d'acides aminés qui, dans le fond, transcrivent une partie de l'ADN, en tout cas. Et donc, eh bien, au fil des mutations, des changements qui se produisent dans chaque lignée évolutive, eh bien, elles se modifient. Donc, on peut identifier avec des protéines, on peut identifier des groupes animaux ou humains différents les uns des autres. Donc, c'est cette méthode qui a été mise en œuvre et qui s'est révélée tout à fait fructueuse, puisque on a pu montrer que les protéines qui étaient contenues dans cette mandibule, eh bien, étaient des protéines qui correspondaient à l'ADN des Denisoviens de la grotte de Denisova dans l'Altaï. Et donc, on a fait la liaison entre un fossile qui, lui, a beaucoup de caractères morphologiques qu'on peut étudier, et puis les fameux Denisoviens. Et donc, D'une part, ça prouve que ces Denisoviens ont bien existé ailleurs qu'en Sibérie, en Chine notamment. Et puis ça permet aussi d'aller revisiter des fossiles chinois que l'on connaît déjà et de montrer que bien certains ressemblent beaucoup à cette mandibule et donc sont probablement des Denisoviens aussi.
Et vous avez pu le dater également, hein, ce fossile ?
Alors, malheureusement, évidemment, il a été récolté dans des conditions qui font qu'on a du mal à le relier à un niveau archéologique particulier dans cette grotte. Mais heureusement, il restait sur l'os une croûte de carbonate, de calcaire, qui, elle, a pu être datée par une méthode qu'on appelle l'uranium-thorium et qui nous donne un âge de 160 000 ans.
Donc maintenant qu'on sait ça, ça veut dire qu'on apprend que l'homme de Denisova était un montagnard. Il vivait très très haut.
Alors, peut-être pas tous les hommes de Denisova, hein, mais il y avait au Tibet, il y a 160 000 ans, une population qui était adaptée à la vie en haute altitude. Et je dois dire que, de mon point de vue, c'est ça qui est l'aspect peut-être le plus extraordinaire de cette découverte, parce que dans le fond, des Denisoviens, on savait bien qu'à un moment donné, on en trouverait ailleurs en Asie. Mais personne n'imaginait, encore la semaine dernière, qu'il pouvait y avoir des hominines archaïques vivant à une altitude pareille.
Et est-ce que ça permet aussi de savoir si ces caractéristiques ont été héritées ensuite des hommes modernes, ces caractéristiques de vie en altitude ?
Alors exactement, ce qui est tout à fait intéressant aussi dans ce travail, c'est que on a recherché, je vous l'ai dit, l'ADN de Denisoviens dans les populations asiatiques actuelles. En Asie continentale, il y a très très peu, moins d'1%. Mais dans la région du Tibet, les Tibétains actuels ont une variante d'un gène qui leur permet d'être adaptés à la respiration d'une atmosphère pauvre en oxygène. Et on s'est aperçu que ce variant-là se retrouvait dans le génome des Denisoviens de Denisova. C'était très difficile à comprendre parce que ces Denisoviens de Sibérie ne vivent pas en haute altitude.
Là, c'est la clé du mystère que vous avez
Alors,
trouvé.
Alors voilà, maintenant, on pense qu'il y avait une population assez importante de Denisoviens dans le nord de la Chine, le plateau tibétain, avec des connexions avec le sud de la Sibérie, et que la sélection de cette allèle s'est fait il y a très longtemps sur le haut plateau tibétain et au moment où les hommes modernes, nos ancêtres, sont arrivés dans cette région du monde, eh bien, avec des échanges génétiques avec les populations archaïques locales, eh bien, ils ont acquis cette variante génétique et elle a été probablement très vite fixée par la sélection naturelle parce qu'elle était très avantageuse.
Frédéric Thomas, on peut imaginer qu'il y avait des cancers déjà chez les hommes de Denisova.
Oh oui, certainement. Ouais. Peut-être moins qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'ils vivaient sans doute moins longtemps que nous. Et puis, je pense qu'ils mangeaient bio et qu'ils n'étaient pas forcément exposés
au même environnement,
au gaz d'échappement, etc. Mais ils avaient certainement des cancers, ça c'est sûr.
En tout cas, elle a eu chaud votre mandibule, hein, Jean-Jacques Hublin, parce qu'elle aurait pu devenir de la poudre de perlimpinpin. Hein.
Oui, alors il paraît que ça soigne des tas de choses.
Hein. C'est très chic de se faire soigner grâce à l'homme de Denisova. Alors là, pour le coup, je connais pas le prix du traitement, mais ça doit coûter très très cher.
Enfin, on doit une fière chandelle au sixième Bouddha vivant.
Absolument.
Merci à lui.
Absolument.
Je crois que c'est je suis sûr, hein, c'est la première fois que j'écris un article scientifique dont les remerciements commence quand même par les remerciements à un vivant.
Hein. C'est vrai, absolument. Voilà. Merci en tout cas, et c'est grâce à lui que vous faites la une de Nature, grâce à cette mandibule de l'homme de Denisova qui nous permettrait de poursuivre finalement l'histoire évolutive de ce genre humain. Merci beaucoup Jean-Jacques Hublin, et puis Héloïse, on se retrouve demain.
À demain Mathieu.